Ano ama économie.
Bonjour et bienvenue à Panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Capi. Au sommaire de cette émission, il n'y a pas de transparence dans la gestion de ressources naturelles. Le ministre délégué aux Finances l'a reconnu jeudi devant les sénateurs. Patrice Kitebia a cependant affirmé que le gouvernement lutte contre cette pratique jugée non conforme aux standards internationaux. Les entreprises minières de Lubumbashi se plaignent du manque à gagner qu'elles enregistrent depuis quelques mois à cause du déficit en énergie électrique, accusant la Société nationale d'électricité d'être à la base de cette situation. Vous suivrez dans cette émission la réaction de la SNEL Katanga. Panorama économique reçoit bienvenue Marie Bakoumania, journaliste économique au journal Le Potentiel. Bonjour, bienvenue.
Bonjour madame.
Et à la présentation, Jocelyne Moussaoupo et Daniel Tambizoni.
Panorama économique, le dossier.
Il y a un problème de transparence dans la gestion de ressources naturelles du pays. Le ministre délégué aux Finances l'a reconnu jeudi devant les sénateurs.
Patrice Kitebi répondait ainsi à la question orale lui adressée au sujet de l'arrêt par le FMI du deuxième programme économique du gouvernement avec les institutions de Bretton Woods. Il a cependant affirmé que le gouvernement lutte contre cette pratique jugée non conforme aux standards internationaux. Les propos du ministre des Finances sont recueillis par Mimi Ngou.
Il y a, au niveau de la gestion des ressources naturelles du pays, des problèmes de transparence auxquels nous essayons de nous attaquer. Mais, ainsi que vous le savez, c'est des questions qui se sont enracinées. Le chef de l'État en a fait un cheval de bataille. Le Premier ministre et tout le gouvernement essayent de se mobiliser pour lutter contre les pratiques qui ne soient pas conformes ni aux standards internationaux, ni à la loi, principalement la loi d'avril 2010 concernant la passation de marché public. La cession des actifs des entreprises publiques, quelles qu'elles soient, doit en principe répondre aux exigences de transparence. Ceci, malheureusement, il faut le reconnaître, n'est pas tout à fait le cas. Et le problème que nous avons résulte essentiellement de cela. Le gouvernement en est conscient et nous essayons de déployer toutes les mesures dans le cadre du processus de réforme pour qu'on arrive à gérer de manière satisfaisante cette question.
Voilà Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances. Bienvenue Bakoumania, vous êtes notre invité. Le deuxième programme économique du gouvernement avec le Fonds monétaire international arrêté. Et en quoi la RDC peut s'en tenir?
Ben, c'était prévisible que ce programme n'allait pas aboutir malgré tous les efforts consentis par le gouvernement dans la gestion des affaires de l'État, la maîtrise du cadre macroéconomique. Tous les indicateurs, je l'affirme, sont au vert actuellement. On a même des réserves de l'ordre de 1,4 milliard de dollars, des réserves d'échange. Mm-hmm. Et on a même des projections. L'inflation cumulée ne dépasserait pas les projections de 9,9%. Comme c'était initialement prévu, c'est-à-dire que le gouvernement a fait preuve d'une gestion rigoureuse et orthodoxe des finances publiques. Mmh. Malheureusement, cette fois-ci, c'est au niveau des réformes qui touchent notamment dans la transparence dans les secteurs extractifs. Là, le gouvernement a péché et c'était prévisible. Nous, au potentiel, c'est déjà, ça fait 3 mois, on avait tiré la sonnette d'alarme pour dire faites attention, il y a des choses qui ne sont pas très claires au niveau de la GECAMI, les contrats qui sont signés ne l'ont pas été suivant les règles de l'art.
Pourtant, la RDC a adhéré à plusieurs initiatives pour mettre fin à cette situation. On est à l'ITIER, par exemple.
Exact. Par exemple, madame, on est à l'ITIER, ben, qu'est-ce que vous croyez si on a des bons textes et qu'on n'a pas la volonté de les appliquer? Moi, je m'étonne que le ministre Pernich, il n'a pas adressé un mur de lamentation. Quand on est gouvernement, on frappe. Qui n'a pas voulu que les contrats de la GECAMI soient publiés comme c'était convenu, hein, comme on avait convenu avec le Fonds monétaire international, mm-hmm. que cette personne soit frappée? Il semble que c'est...
Mais on a quand même quelques-uns qui ont été publiés.
Oui, ben, il fallait tout publier. Pourquoi est-ce qu'on doit cacher? Il n'y a rien à cacher. En cette matière, aussitôt les contrats signés, ben, les entreprises qui les ont achetés, qui ont acquis ces carrés miniers, ben, ils les affichent. au niveau de la bourse, et le FMI n'a pas à venir chercher ailleurs, il va dans la, à la bourse, il prend toutes les informations. Donc on n'a même pas intérêt à falsifier, à imputer certaines clauses comme on a fait là, ça ne servait à rien, c'est ridicule. Et à ce niveau-là de responsabilité, on ne peut pas s'entourer de pareilles pratiques, on ne peut pas s'encombrer de pratiques qui démontrent qu'on a des choses à cacher, alors que nécessairement, on n'a pas nécessairement de choses à cacher.
Et là, malgré les efforts du gouvernement à contenir le cadre macroéconomique, c'est seulement le secteur minier qui vient tout mettre par terre.
Oui, le secteur minier vient de tout de bousiller tous les efforts consentis pendant 3 bonnes années. Ce sont des efforts réels qui ont commencé avec le gouvernement Mouzito et qui se sont poursuivis, des efforts palpables. C'était encourageant, on s'était dit désormais les finances de l'État, la gestion de l'État serait entre des bonnes mains. Mais là que l'on cache des contrats et que cela perturbe tout un programme, provoque l'arrêt, le crash. Moi je préfère bien le mot crash, le crash de tout un programme économique du gouvernement, c'est des conséquences sont incalculables. Il y a des gens qui minimisent au sein du gouvernement même.
Mais qu'est-ce qui peut réellement arriver?
Ben là, il y a déjà 240 millions de dollars que nous ne pourrons plus percevoir au titre d'appui de soutien.
Mais le FMI confirme qu'on n'a pas suspendu, mais c'est un programme qui est seulement arrivé à terme.
Ça, c'est diplomatique, madame. Quand on dit qu'on n'a pas suspendu, donc la quatrième revue ne sera pas conclue. Ça, c'est le terme même de la directrice du FMI, madame Salé, Aminata, je crois, ou Asiat, ou quelque chose pareil. Quand elle dit dans sa correspondance, quand elle écrit que la quatrième revue ne sera pas conclue, on n'ira même pas à la quatrième revue, ça veut dire que la tranche de facilité qui nous était accordée ne viendrait pas, et qu'on ne cache pas la vérité à la population.
Mais là, le sénateur Emery Kalamba, par exemple, l'auteur de la question orale adressée au ministre délégué aux Finances, propose au gouvernement de négocier avec le FMI.
Oui, oui.
Que pensez-vous de cette démarche?
Oui, le FMI, le FOM n'a pas fermé la porte. La porte reste ouverte.
Oui.
Le fonds sollicite même du gouvernement de renvoyer l'équipe pays au cas où on estimerait qu'on est disposé à dialoguer avec le FMI. Mm-hmm. Mais je dis, pourquoi madame, je vais vous dire, l'histoire de ce pays est émaillée de choses inadmissibles. Savez-vous que depuis qu'on a commencé avec le FMI, le seul contrat qu'on a réussi qui a atterri, c'est le point d'achèvement.
Le point d'achèvement, oui.
C'est le point d'achèvement avec le gouvernement Mouzito. Depuis Kengo 1, Kengo 2, rigueur, ajustement structurel, des programmes se sont toujours terminés de cette manière-là.
Mais qu'est-ce qui est à la base de cette situation?
Ben, c'est la mauvaise gouvernance.
Mm-hmm.
Les gens ne sont pas disposés à gérer conformément aux règles en la matière, aux règles élémentaires de la gestion. Moi, il y a un contrat qui est publié par l'autre partie. Pourquoi est-ce que je le cacherais? Il n'y a pas de raison. C'est enfantin de cacher des contrats publiés par ailleurs par les partenaires avec qui on a signé les mêmes contrats. C'est publié, c'est à la place publique. On n'a même pas besoin de les cacher.
Donc là-bas, oui.
Le FMI ne voulait que voir de la part des Congolais le respect de ce principe de présentation de ce que nous avions reçu. On peut même falsifier les chiffres. Pour le FMI, c'était le principe. Non, c'est dire que on va jusqu'où on a été irresponsable. Moi, je n'ai pas d'autre mot. On a été irresponsable. Et là, il n'y a pas que les 240 millions du FMI qui partent. La suspension avec les autres partenaires multilatéraux et bilatéraux sont quasi automatiques. La Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, et là, ça risque de se chiffrer en termes de milliards de dollars. Et là, renouer encore avec le FMI, ça peut nous prendre encore une année de programme sans appui. Qui perd dans ce cas-là?
Mm-hmm.
C'est le gouvernement qui perd parce que tous les efforts consentis se sont anéantis. Et la population qui a consenti ces efforts ne tire aucun bénéfice. Alors, ce cercle vicieux profite finalement à qui?
Voilà, si le gouvernement congolais peut encore négocier avec le FMI, la balle serait peut-être du côté du ministère des Mines.
Bon, moi, je me dis, le ministère, tout ce qu'il faut faire maintenant, parce que le ministre vient de dresser un mur de lamentation. Tout ce qu'il faut faire au niveau du gouvernement, c'est commencer d'abord par publier les contrats qui font problème. Le seul qui reste là. Qu'on le publie d'abord. Hein, on publie, et même là, la population congolaise,
il y en avait 5, 4.
On en a publié 4, il reste un contrat. Qu'on publie ces contrats, je crois, le contrat Comédie. Qu'on publie d'abord ce contrat.
On le cacherait avec quelle intention, justement.
Mais justement, est-ce que les gens ont détourné les fruits, les produits de ces contrats? Peut-être. Ça peut accréditer cette thèse. Et moi, je me dis, si les gens se permettent de cacher des contrats, c'est qu'il y a eu des détournements. Il y a eu des tentatives de corruption ou des corruptions avérées. Et ils ont honte d'être démasqués. Mais maintenant, ils sont de plus en plus démasqués. Parce que là, c'est au grand jour. Ça ne se passe plus en cachette. Ce n'est pas entre le FMI et le gouvernement. Maintenant, c'est à la place publique. Tout le monde sait qu'il y a problème au niveau de la gestion en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de transparence. Et la crédibilité du pays va en souffler. La crédibilité, ça n'a pas de prix. Si on peut évaluer ce que nous perdons, mais notre crédibilité sur la place financière internationale, ça n'a pas de prix. Et là, c'est inestimable. Et pour la reconstruire, ça va nous prendre encore du temps. Ouais. Ça va nous prendre beaucoup de temps.
Voilà. Et on passe à autre chose maintenant. C'était mercredi 5 décembre que le groupe de télécommunications Orange a lancé ses activités en RDC. Orange vient donc proposer sur le marché congolais le service de téléphonie et d'internet mobile.
C'est le bourgmestre de la commune de la Gombe qui avait coupé le ruban symbolique lors de la cérémonie inaugurale. Il était en présence du directeur général de Orange RDC et du directeur exécutif de la zone Afrique, Moyen-Orient et Asie. Berry Franklin Luchaka nous en donne plus de détails.
Le réseau est déjà opérationnel à Kinshasa et le sera dans les jours à venir à Lubumbashi et à Matadi. Les villes de Goma, Bukavu et Mbujimayi vont rejoindre le réseau début 2013. Depuis l'acquisition de CCT en octobre 2011, Orange a investi 95 millions de dollars américains pour étendre et mettre à niveau son réseau. Orange emploie aujourd'hui directement plus de 600 personnes et indirectement au moins 30 000 personnes. Avec ses 2,3 millions d'abonnés, soit 10% du marché de télécommunications RDC, Orange projette devenir le réseau le plus préféré des Congolais. Les responsables de cette entreprise se disent confiants malgré la concurrence, étant donné qu'il y a encore une part du marché énorme non exploitée. Le groupe envisage s'investir également dans le développement socio-économique, notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé et de la culture à travers la Fondation Orange qui sera opérationnelle l'année prochaine. Rappelons que Orange RDC est l'une des filiales de France Télécom qui d'ailleurs détient jusque-là les 100% de la filiale mais qui a vocation à ouvrir son capital à des actionnaires congolais. France Télécom Orange, qui a fait un chiffre d'affaires de 45 milliards d'euros en 2011, est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Elle est présente dans 33 pays, dont 18 en Afrique. La RDC est donc le 19e pays en Afrique où le groupe est implanté.
Merci Berry Franklin Luchaka. Bienvenue Bakoumania, vous êtes notre invité. Qu'est-ce que cela vous inspire, hein, l'arrivée de Orange qui est quand même un grand hein, dans les secteurs de télécommunications à travers le monde.
Oui, absolument. Un nouvel arrivant dans le secteur, ça bouscule, hein, ça bouscule les habitudes. Et on sent bien que dans le secteur des télécoms, les gens sont en train de se bousculer. L'arrivée d'Orange va mettre encore de la pression sur ceux qui opèrent déjà. Et ils vont certainement, dans les jours qui suivent, améliorer également leur service hein, pour être à la hauteur de nouvel arrivant.
Mais Orange rachète CCT qui ne détenait que 10% du marché de télécommunications RDC, qui était en quatrième position après les trois grands qu'on connaît en RDC. Quelle chance on peut donner à cette entreprise?
Écoutez, moi je crois que CCT était plus le réseau de l'intérieur du pays.
Oui.
Et c'est presque 2,3 millions d'abonnés. Et Orange, avec le produit qu'il promet de proposer aux usagers, aux abonnés, je pense que le potentiel au niveau de l'intérieur du pays est tel que, si c'est bien géré, en tout cas l'ordre d'arrivée tel que vous l'avez donné risque de changer. Et là les autres opérateurs en sont conscients, on échange avec eux, on se rend compte que ils ont pris la mesure du danger qui les guette et ils sont en train d'améliorer rapidement leur service, la qualité de leurs produits afin d'être à la hauteur de ce que pourrait éventuellement proposer Orange.
C'est vrai que le marché est vaste à l'intérieur du pays, la RDC d'une manière générale environ 70 millions d'habitants, mais qui malheureusement n'ont pas un pouvoir d'achat fort. Mais est-ce que vous pensez qu'il est aujourd'hui possible pour un opérateur de télécommunications d'explorer ces marchés, notamment dans les milieux ruraux, et se faire de bénéfices.
Ah, bien sûr, on a vu comment tous les opérateurs qui sont arrivés ici ont eu un retour d'investissement intéressant, extrêmement intéressant. Vous n'avez qu'à constater.
Dans les grandes villes.
Les mutations qui se sont opérées, hein, vous n'avez qu'à constater. Et CCT à l'époque, malgré une certaine qualité défaillante de son réseau, ne demeurait pas moins un réseau très prisé à l'intérieur du pays. Mais madame, vous vous tromperez. La majorité des Congolais vivent dans les villages. Hein. Ils vivent dans les villages et le téléphone, le coût du téléphone est tel que y accéder ne ferait pas beaucoup de soucis à des Congolais le plus bas possible de l'échelon.
1000 francs congolais, c'est quand même beaucoup pour certains ménages.
Oui, mais pour s'acheter du crédit, mais pour avoir une carte SIM, ce n'est pas beaucoup.
Et il faut l'utiliser après.
Voilà. Peut-être que le vrai problème qui pourrait se poser, c'est peut-être la recharge en électricité. Oui. Ça, c'est autre problème.
Voilà, on va passer au troisième dossier d'aujourd'hui. La plupart d'entreprises minières de Lubumbashi se plaignent du manque à gagner qu'elles enregistrent depuis quelques mois à cause justement de ces déficits en électricité.
Elles accusent la Société nationale d'électricité, la SNEL, d'être à la base de cette situation. Et en réaction, la SNEL Katanga fait savoir que cela est dû aux multiples difficultés qu'elle et son partenaire zambien ZESCO connaissent dans la fourniture du courant électrique, notamment l'étiage. Un reportage signé Paulin Munanga.
Quelques responsables d'entreprises minières de Lubumbashi que nous avions pu contacter annoncent que les difficultés dues au déficit en électricité leur ont causé beaucoup de torts. Leur production a baissé, selon eux. Parfois, ce sont des coupures intempestives du courant et quelquefois des chutes de tension qui ne permettent pas aux machines de bien fonctionner. Illustration avec l'entreprise minière Chemaf. L'un de ses responsables déplore cette situation qui affecte la production. Joe Katembo.
On ne sait pas recevoir beaucoup de Inga, ce qui fait qu'il y a la demande au niveau de notre province est supérieure à l'offre ou au courant que produisent nos quatre centrales électriques mises ensemble. Alors nous avons besoin d'un apport extérieur et cela nous l'avons de ZESCO, de la Zambie, mais malheureusement pour Chemaf, c'est seulement la nuit que nous avons ce courant externe de la Zambie. Alors ça fait que nous ne recevons que 56% pour arrondir 60% de notre besoin en électricité. Quand une entreprise ne reçoit que 56% de sa demande en électricité, cela affecte négativement notre production. Chemaf a besoin de près de 23 MW chaque jour pour pouvoir faire sa production.
En réaction, le directeur provincial de la SNEL Katanga reconnaît ces difficultés qui sont notamment liées à la défectuosité de certaines machines, mais aussi à l'insuffisance de l'énergie électrique même du côté de la Zambie où elle importe les courants électriques notamment à l'entreprise ZESCO. Et Fridolin Kumbu précise que la facture que la SNEL paye à ZESCO est d'environ 3 millions de dollars américains par mois.
Nous avons eu de retard pour payer la Zambie. Pendant que je vous parle, je peux vous dire que la SNEL a déjà payé les arriérés qu'on devait à ZESCO. À peu près un mois, nous avons connu beaucoup de perturbations lorsque ZESCO avait interrompu l'interconnexion entre Zambie et le Congo. Mais la situation était redevenue en ordre. Mais aujourd'hui, la Zambie a d'autres problèmes parce que ils ont un problème d'eau au niveau de la centrale de Kafue-Gorge. Le niveau d'eau est trop bas là-bas et ils ont arrêté une machine au niveau de la centrale de Kariba, ce qui fait que la puissance que Zambie mettait à notre disposition était de 100 MW la nuit. Ils ont réduit à 60 MW.
Le directeur provincial de la SNEL Katanga pense que pour résoudre cette situation, la RDC a intérêt à construire de nouvelles centrales électriques car localement, la demande est croissante. Lubumbashi, Paulin Munanga pour Eco d'économie.
Voilà, bienvenue Bakoumania. Le secteur minier est aujourd'hui en quelque sorte le pilier de l'économie congolaise, mais depuis un temps on enregistre de plus en plus ces genres de plaintes pour ces secteurs, surtout à cause de l'électricité. Ça craint un peu là.
Oui, bon, écoutez, l'électricité, si on avait des ambitions, si on avait des dirigeants visionnaires, la RDC pouvait être une puissance énergétique mondiale, planétaire. Et même là...
Point de ne pas dépendre de la Zambie, comme c'est le cas.
La Zambie du Congo-Brazzaville, comme actuellement encore de l'Ouganda et du Rwanda. Mais bon, écoutez, madame, je suis quelque peu en difficulté pour parler de cette affaire quand j'entends des entreprises comme Chemaf se plaindre, hein, parce que il n'y a pas longtemps, il y a eu un litige entre Chemaf et SNEL. La SNEL, il est privé de ses moyens, notamment par Chemaf. hein, pour que la SNEL puisse arranger ses machines. Hein, si Chemaf ne versait pas dans la fraude, la SNEL pouvait disposer des...
D'une manière générale, ses clients doivent honorer. Voilà.
Ouais, ils ont aussi une part des responsabilités, mais cela ne veut pas dire que nous exonérons la SNEL de sa responsabilité première et même le gouvernement de sa responsabilité des doutes. Parmi les critères pour le climat des affaires, il y a aussi la desserte en électricité.
Surtout,
de
l'emploi.
Hein, donc là, nous exhortons le gouvernement à voir un peu plus loin. Il y a moyen d'améliorer l'existant. On a proposé tout à l'heure dans le reportage que nous venons de suivre que l'on puisse construire d'autres centrales. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. On doit commencer par améliorer l'existant. À Inga, on a des machines qui sont là, qui ne fonctionnent presque plus. Ce sont devenues des pièces transformées en pièces de
musée.
Ça
demande des gros moyens que...
Pas nécessairement de gros moyens. La réhabilitation d'une turbine, c'est dans les 30 millions de dollars. Il y a moyen pour la SNED de les mobiliser, même en partenariat avec les mêmes miniers qui ont besoin d'électricité. Il y avait des montages qui étaient élaborés à l'époque, mais qu'on n'a pas finalisé parce que les gens sont gloutons. Les gens sont plus enclins à gagner des commissions plutôt qu'à travailler pour que ces machines fonctionnent réellement. Les gens à la SNED, à l'époque, et au gouvernement, à l'époque, c'était le portefeuille. À l'époque, les gens voulaient que les machines restent dans cet état de non-utilisation afin que les partenaires viennent et disent, bon, nous, on veut réhabiliter ceci, ben, on empoche et puis on les renvoie 2 jours après et puis trois jours après, un autre vient et on encaisse des commissions, on les renvoie. C'était un business rentable. On doit arrêter, on doit briser ce cycle. Ça ne nous honore pas de continuer à nous plaindre alors que nous avons tout ce qu'il faut tout autour de nous pour que nous puissions développer notre pays. L'électricité, c'est pas une denrée qui peut manquer à la République démocratique du Congo.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
La RDC occupe la 160e place sur 174 pays dans le monde et la 44e place sur 48 pays africains dans le classement de l'indice de perception de la corruption pour l'année 2012.
C'est le rapport qu'a publié jeudi 6 décembre l'ONG Transparency International. Selon le responsable Afrique centrale de cette ONG, la RDC reste sur une position statique par rapport à l'année passée.
Kampene et Maniema, de nouveau approvisionnés en produits manufacturés.
L'aérodrome fermé il y a plus d'une semaine à la suite de la situation sécuritaire au Nord Kivu a été rouvert et les premiers avions cargo ont atterri samedi dernier avec à leur bord quelques produits comme des pièces d'étoffe, des ballots de friperie et autres chaussures, sans oublier des caisses de boissons de toutes sortes.
Voilà, quelques nouvelles en bref. Bienvenue Bakoumania, un commentaire sur l'une ou l'autre.
Surtout avec le rapport de Transparency International.
Absolument, je prendrais ce rapport, ben, c'est pas pour fouetter, on m'a toujours reproché de chicoter le gouvernement, non, c'est pour que l'on puisse changer les choses. C'est une honte toujours que l'on soit à la queue, que l'on soit
dans tous les rapports.
Oui, dans tous les rapports, quand il s'agit de mauvaises choses, c'est toujours les Congolais qui sont épinglés, et pourtant là, c'est parce que c'est madame la solution, c'est punir. Il faut que on arrive à quitter cette gestion de l'impunité.
Et s'il te plaît, bienvenue, parce que vous dites il faut punir, mais je pense il s'est tenu à Kinshasa cette semaine un atelier sur
la lutte contre la corruption.
Mais la dame qui a représenté, c'est madame Kulumbayo, qui a représenté le ministre de Justice, a dit beaucoup d'efforts ont été faits pour combattre la corruption, mais en tout cas, dans la plupart des cas, les auteurs de la corruption restent impuni. Chaque fois qu'on veut le poursuivre, il y a des interférences, il y a des intimidations, et même aussi, elle dit que le taux de dénonciation d'actes de corruption est très bas. Lorsque cela sort du ministère de la Justice, c'est que
C'est inquiétant, c'est très inquiétant que le gouvernement fasse cet aveu d'impuissance.
Oui.
Mais finalement, qui va arranger les choses? Si le gouvernement est impuissant face à ces réalités. Souvent, c'est parce que les gouvernants eux-mêmes sont dans le circuit des corruptions. C'est pourquoi on arrive... Moi qui suis un pauvre gars qui circule sur les routes de Kinshasa, comment est-ce que, si on veut m'arrêter, qui va empêcher, qui va exercer des pressions pour qu'on m'arrête pas? On m'arrêtera. Si on n'arrête pas, ce sont ceux-là même qui ont la décision, qui ont qui détiennent la force de la loi, ce qu'ils exercent. Ce sont eux qui exercent des pressions. C'est parce que la corruption, c'est à gangréner
le
haut de la hiérarchie,
oui.
De l'État, les sommets de l'État, c'est-à-dire le gouvernement.
Mais c'est à tous les niveaux.
À tous les niveaux, mais justement, l'exemple vient d'en haut. Quand au sein du gouvernement, on pille, on vole, on corrompt, on reçoit la corruption sans être inquiété, et ceux qui sont en bas, ils emboîtent le pas. Je pense que le vrai problème, c'est que le gouvernement ne doit pas démissionner. Le gouvernement doit frapper. Et lorsqu'on aura quitté le monde de l'impunité, c'est en ce moment-là qu'on pourrait s'en sortir. Il n'y a pas d'autre solution.
Matière première, l'année 2012, première année depuis le lancement de l'usine d'or à Twangiza, au sud de Kivu, par Banro Corporation.
On a atteint le cap de 500 000 onces d'or produites. En même temps, le projet Namuya est à pied d'œuvre au Maniema et selon le chargé des affaires publiques à la société, le premier lingot d'or sortira de l'usine de Namuya en 2013. Willy Mushagalusa, le manager chargé des affaires publiques de la compagnie minière Banuro l'a dit à Radio Okapi. Il fait le bilan des activités de cette multinationale pour l'année qui s'achève. Il est au micro de Michel Chirimwami.
2012 était une année qui a commencé par une restructuration au niveau de la boîte pour essayer d'adapter un nouveau système de management à la réalité actuelle d'une compagnie qui est toujours dynamique, qui avait commencé comme une petite compagnie d'exploration en 2004, mais qui est maintenant à mesure de produire, de construire des usines. La première étant l'usine de la production d'or de Twangiza, inaugurée en 2011, et aussi l'expansion du projet Namuya, qui est en train d'être transformé en une usine de production d'or pour l'année 2013. Nous comptons produire le premier lingot en 2013. Donc la première année nous a permis d'abord d'identifier si l'usine pouvait produire à sa capacité maximum prévue. Alors nous avons déjà été en mesure de dépasser le cap de 50 000 onces. Et il y a quelques mois, nous avions invité la communauté de Luindja lorsque nous avions atteint le 44 000 onces, puisque dans la convention, le cahier des charges qui avait été signé entre la compagnie et la communauté de Luindja, on s'était entendu que sur chaque once d'or qui est produit, il y a un montant de 1 dollar qui sera remis à la communauté pour supporter les œuvres de développement communautaire. Et donc, nous sommes en train de dépasser le cap maintenant de 50 000 onces si nous pouvons faire l'écart entre le moment où nous avions présenté le chèque et le moment où je suis en train de vous parler. Mais le plus grand projet qui a déjà été annoncé, c'est l'étude de faisabilité pour identifier un endroit où nous allons construire peut-être une centrale hydroélectrique pour nourrir le projet, bien sûr, et que quelque part la communauté et la province pourront toujours en bénéficier.
Voilà, 500 000 onces d'or déjà produites pour le projet Banro Corporation. Visiblement, le projet marche bien, une bonne nouvelle quand même pour le monde des affaires, mais Banro, qui malheureusement a failli connaître des problèmes à cause de la situation dans l'est du pays. Nous avons appris que ses actions ont chuté à la bourse de Toronto lors de l'occupation de la ville de Goma par le M23.
Donc les bruits de bottes ne marchent pas de pair avec les affaires.
Oui.
Et là, c'est une création de 500 onces de d'or. C'est quelque chose et c'est le trésor public qui va s'en sortir heureux. Et c'est aussi la population dans la mesure où il y a toujours une redistribution, même si jusque-là, il faut reconnaître qu'au niveau du budget de l'État, la redistribution n'est pas encore acquise, mais si déjà au niveau des entités comme Banro, on peut penser à la redistribution, ce serait une très bonne chose.
Voilà, bienvenue Bakoumania, Bienvenue Marie Bakoumania. C'est sur ce commentaire que nous mettons un point final à cette émission Panorama économique. Merci d'être venu dans notre studio pour cette émission. Merci à tous nos auditeurs pour l'attention accordée à Panorama économique. Jocelyne Moussa Opondé et Daniel Tambizoni étaient à la présentation. Bon week-end à vous tous. Retrouvez l'actualité économique déjà lundi à 18h15, heure de Kinshasa. Panorama économique, c'est samedi prochain, 12h30, heure de Kinshasa. Bon week-end.